Chers auditeurs, auditrices, Michel Théron est un habitué de notre antenne FM Plus 91 FM à Montpellier, mais dans la posture d'animateur radio. Aujourd'hui, à ce micro, une fois n'est pas coutume, Michel Théron est invité. En effet, Michel Théron vient de publier un livre, et ce n'est pas son premier. Dans ce nouvel ouvrage, Michel Théron propose une réflexion sur la sagesse, sur les chemins de la sagesse, tel en est le titre. Michel Théron, bonjour.
Bonjour Guylaine, bonjour à tous.
Alors Michel Théron, vos champs d'activité intellectuels sont pluriels, stylistique, philosophie, culture générale, christianisme plus ou moins hérétique. Aujourd'hui, sur les chemins de la sagesse. Alors comment est-ce que vous insérez ce nouveau titre dans la liste de vos écrits?
Bien, il y a une phrase de Terence qui dit « Homo sum et nihil humani ame alienum puto ». C'est-à-dire « Je suis un homme et je considère que rien d'humain ne m'est étranger ». C'est pour cela qu'il y a cette interdisciplinarité que je pratique depuis toujours, en particulier lorsque j'étais professeur en lettres supérieures à Nippocagne, au lycée Joffre de Montpellier. C'est une classe où l'interdisciplinarité est reine.
Vous avez conservé ça toute votre vie.
Voilà, voilà. Donc la sagesse est un peu un résumé de toutes ces démarches, de tous ces chemins qui y mènent. Alors ce qui m'a un peu irrité, vous voyez Guylaine, c'est qu'en parcourant les rayons des librairies, en particulier le rayon du développement personnel, j'ai vu beaucoup de livres de coaching qui prétendent nous donner la voie pour aller vers la sagesse, la voie unique. Et alors, en réaction contre cela, j'ai intitulé mon livre « Sur les chemins de la sagesse ». Il y a plusieurs chemins.
Voilà, plusieurs voies, plusieurs chemins. Et l'objectif de votre livre est clairement annoncé « Plusieurs voies pour vivre mieux ».
Voilà. On peut, par exemple, quand on gravit une montagne, l'aborder par différents côtés. Hein. Alors là, à l'arrivée, effectivement, c'est le mot que je préfère, c'est le mot paix, la paix. Hein. Donc la paix, la sérénité, mais il y a plusieurs façons de l'atteindre, vous voyez. Donc vivre mieux, c'est en dehors de toute confession religieuse, en dehors de toute appartenance quelconque à une idéologie, trouver empiriquement des moyens, des recettes pour être équilibré. Mais ces recettes sont très diverses. Et finalement, je reviens à ces fameux livres de coaching qui me donnent des boutons. Hein.
On les oublie.
Ils nous disent, faut qu'on fasse ça, ouais. Etc. Vous savez, c'est pas parce que vous allez agencer votre intérieur selon les règles du Feng Shui, par exemple, ou bien parce que vous pratiquerez de la méditation, quelle qu'en soit l'origine, hein, que vos problèmes seront abolis. Hein. Ça revient à balayer la poussière sous le tapis, en quelque sorte. Hein.
Alors, en effet, dans votre livre, vous vous y prenez d'une autre façon. Vous avez 20 entrées pour ces voies de la sagesse. Est-ce que ce sont, pour vous, justement, vous utilisez le mot recette, 20 recettes, 20 voies, 20 explications de termes qui mènent les uns et les autres à cette dimension du bonheur, si on peut parler ainsi. Comment est-ce que vous définiriez ces 20 entrées différentes ?
Oui, il y a une vingtaine de chapitres, mais à l'intérieur même de chaque chapitre, je pratique souvent alors ce que les anciens sophistes appelaient l'antilogie ou antilogia, c'est-à-dire le renversement du pour au contre. Je crois que c'est quelque chose que Pascal aussi pratiquait. Hein. Donc par exemple, sur le chapitre appelé projection, je montre bien qu'il y a un danger à projeter mentalement sur autrui des fictions ou des imaginations que nous nous faisons, mais d'un autre côté, je montre bien que parfois, si l'on y trouve du bonheur, hein, même si c'est un inconvénient dans la vie sociale, solitairement, on peut toujours rêver. Et il y a une sorte d'éloge de la folie à faire, hein, comme le faisait Erasme déjà. Donc vous voyez, Guylaine, à l'intérieur même de ces 20 chapitres, hein, eh bien, il y a plusieurs facettes à explorer. Hein. Mais ça ne veut pas dire que l'on est condamné au scepticisme, pas du tout. Parce que chaque formulation à un degré de validité dans tel ou tel contexte.
Alors, c'est intéressant, vous ayez choisi le mot projection. C'est aussi un des termes sur lequel je voulais vous interroger, parce que ce ne serait pas le premier mot qui viendrait justement à l'esprit pour évoquer cette recherche du mieux-être. Et pourtant, il fait partie de cette liste, et donc on peut avoir des surprises.
Ah oui, la projection. J'ai commencé mon chapitre, mon livre, par cette idée de projection. D'abord, j'ai commencé par la sagesse des nations, où il s'agit de renverser les proverbes, pour vous montrer justement que ce qui compte, c'est pas la vérité d'une assertion ou d'une affirmation, mais son degré de validité. J'ai pris par exemple la formule connue de Lamartine, un seul être vous manque et tout est dépeuplé, et je l'ai renversé avec Giraudoux, dans La guerre de Troie n'aura pas lieu, je crois, en disant un seul être vous manque et tout est repeuplé. Bon. Alors là, cela semble être contradictoire, et c'est effectivement contradictoire. Mais ce qui est passionnant pour l'esprit, c'est de chercher dans quel contexte telle formulation est valide. Vous voyez, c'est pas un problème de vérité universelle, c'est un problème de validité contextuelle. Alors par exemple, lorsque l'on n'a pas de grande passion, alors loin des yeux, loin du cœur, et un seul être vous manque, et tout est repeuplé, effectivement. Hein. On s'intéresse à tout ce que l'on voit, toutes les personnes qu'on voit dans la rue, etc. Là, parce qu'on a une passion petite, une passionnette, en quelque sorte. Mais si on a une grande passion à ce moment-là, eh bien, tout le monde est annulé. Un seul être vous manque, et tout est dépeuplé. C'est un peu comme le vent, hein, qui éteint une petite bougie, qui souffle une petite bougie et qui attise un grand feu, vous voyez. Donc les deux ont raison, Lamartine et Giraudoux, hein. Mais ce qui compte, c'est de voir quelle est la validité. Et donc il faut accommoder son histoire à l'heure, comme disait Montaigne. Montaigne est quelqu'un que je cite beaucoup, c'est un de mes maîtres à penser. Faire un travail d'accommodation, c'est-à-dire de mise au point mental. Voilà, un peu comme en photo, un objectif peut être autofocus. Hein. Mais malheureusement, l'esprit humain n'est pas autofocus, c'est-à-dire qu'il faut faire un effort, hein, un effort pour voir dans quelles circonstances telle affirmation peut se défendre.
Alors, il y a une expression qui fait aussi le titre d'un de vos chapitres, qui est le regard des autres. Alors là aussi, vous maniez toujours cette anti-logisme allègrement, mais avec le regard des autres, c'est quand même un peu plus compliqué, il me semble. Le regard des autres est souvent juge.
Oui, alors je trouve qu'il ne faudrait pas vivre sous le regard des autres. Hein. La tête d'autrui est un bien triste lieu pour que l'homme en fasse le siège de son bonheur, c'est une phrase de Schopenhauer. Hein. Mais en fait, je crois qu'il faut une certaine autarcie. Hein. Autarcie, c'est un mot qui vient du grec et qui signifie autosuffisant. Donc on n'a pas besoin justement de se voir refléter dans le regard de l'autre pour y trouver caution ou justification de ce que l'on fait. Il y a une phrase de Sacha Guitry, je crois, que j'aime beaucoup, qui est très plaisante, qui dit « Si les gens qui disent du mal de moi savaient ce que je pense d'eux, ils en diraient bien davantage », vous voyez. Donc il faut se moquer du regard des autres, et je critique l'idée d'honneur au sens où Schopenhauer critique l'honneur chevaleresque, c'est-à-dire on fait tout justement pour paraître aux yeux des autres, pour être reconnu par le groupe. À mon avis, l'honneur ne tient pas à ce que l'on nous fait, par exemple on nous marche sur les pieds, on nous donne un soufflet, une gifle, etc., mais à ce que l'on fait soi-même. On n'est pas déshonoré parce que quelqu'un nous a marché sur les pieds ou nous a mal regardé. Et alors vous voyez, Guylaine,
on ne devrait pas l'être, mais parfois on l'est.
On l'est, mais on a tort. Et alors, en tant qu'ancien professeur de lettres, en activité, en Hippocagne, je disais bien à mes élèves, revisons nos classiques. Et par exemple, il y a une pièce qui me semble totalement absurde, je ne sais pas si je vais heurter les auditeurs, et si je les heurte, tant mieux, c'est le Cid, hein, le Cid de Corneille, puisque, bon, tuer quelqu'un parce qu'on a reçu un soufflet, bon, c'est la personne qui soufflette, qui est déshonorée, vous voyez, c'est pas nous-mêmes même qui le sommes. Nous nous honorons par ce que nous faisons, mais si quelqu'un nous regarde mal ou bien nous frappe, ce n'est pas, on n'est pas déshonoré. Quelqu'un avait frappé Socrate, hein, à Athènes, et Socrate avait répondu en grec « patasei alla akouei », frappe mais écoute. C'est-à-dire il niait qu'il ait été outragé en quelque façon, vous voyez. Et pareillement pour l'honneur féminin, Guylaine, vous êtes une femme, eh bien je pense qu'une femme victime d'un viol, par exemple d'une agression sexuelle, elle n'est pas déshonoré. Hein. C'est celui qui lui a fait subir cette agression qui a commis ce crime, donc qu'il est déshonoré. Donc l'idée des crimes d'honneur qu'il y a encore dans certaines civilisations primaires, je dirais, c'est quelque chose d'inadmissible. Je pense que ça doit être votre avis, Guylaine.
C'est mon avis, mais je constate autour de moi que c'est difficile à assumer ce que vous êtes en train de dire.
Bien sûr. Bon, mais je crois qu'il faudrait quand même réviser nos classiques. Par exemple, dans le Cid, bon, ben, vous voyez, c'est un homme qui n'admet pas justement qu'on empiète sur son territoire. Et alors, ce qui me paraît curieux, c'est que les jeunes des banlieues aujourd'hui comprendraient tout à fait ce monde-là. Hein. Il m'a mal regardé, il m'a manqué de respect, etc. C'est donc qu'il a manqué à l'honneur hein, et à la représentation que je dois incarner aux yeux des autres, aux yeux de mon groupe. Alors, s'il n'y avait pas le style très rhétorisé et qui leur est inaccessible hein, à ces jeunes-là, eh bien, ils comprendraient tout à fait le fond. Mais le fond, à mon avis, est inacceptable. Donc, vous voyez, de la part d'un professeur de français, ça peut paraître bizarre. Il m'est arrivé aussi de critiquer Molière, qui, au nom du bon sens, critique tout ce qui dépasse la norme sociale. Et donc, il y a un côté totalitaire et fascisant de la comédie basée sur le ridicule à la Molière. Heureusement que Molière n'est pas que ce là. Hein. Donc, je critique aussi Corneille, vous voyez. Effectivement, je ne suis pas conformiste.
Vous ne m'étonnez pas quand vous me dites ça. Un peu plus loin dans votre livre, page 89, j'aimerais vous citer à mon tour, vous citer Montaigne. Eh bien, moi, je vais vous citer. Lorsque vous, dans votre chapitre sur l'ombre, vous nous dites « Si l'ombre nous tourmente trop, il serait vain de vouloir l'ignorer. » Il faut au contraire lucidement l'affronter, la regarder en face, parler avec elle pour l'intégrer en soi. Le sage a toujours les yeux ouverts. C'est un beau conseil, mais là encore, il est peut-être difficile à atteindre.
Alors, l'ombre, c'est une notion que j'emprunte à Jung. Tout mon livre est imprégné des idées de Carl Gustav Jung. Vous savez que c'est un psychanalyste dissident par rapport à Freud, hein. Il s'est fâché avec Freud pour des raisons de pansexualisme. Freud ramenait tout à la sexualité et Jung avait une vision beaucoup plus large. Alors, pour Jung, l'ombre, c'est tout le refoulé, c'est-à-dire les choix que nous avons faits dans la vie et qui ont engendré des frustrations, forcément. Vivre, c'est faire des choix, mais c'est aussi éliminer. Hein. Alors, l'ombre s'opacifie à proportion que nous grandissons et que nous faisons ces choix qui sont autant d'éliminations. C'est détermination, c'est Spinoza qui dit « omnis determinatio est negatio » dans l'éthique. Toute détermination est une négation. Donc, les enfants n'ont pas encore beaucoup choisi, donc ils n'ont pas d'ombre. Les adolescents ont une ombre qui est légère, mais plus vous avancez dans la vie, plus vous devenez adulte, alors l'ombre va s'opacifier, elle va vous tourmenter. Hein. Si je choisis une femme blonde, bon, j'élimine les brunes, j'élimine les rousses, etc. Ah, vous me direz qu'il y a des perruques maintenant, ou qu'il y a du
maquillage.
Voilà, le monde a changé. Mais enfin, quand même, si je choisis tel métier, j'élimine les autres. Bon, si je voulais être acteur, par exemple, et si, conseillé par mon père, je deviens employé de banque ou banquier, eh bien, je verrais, donc, j'aurais éliminé toute la partie sensible de ma personnalité qui pouvait s'incarner dans ce métier d'acteur. Donc, alors, à la mi-vie, il y a un chapitre très important sur la crise de la mi-vie. On s'aperçoit qu'on a beaucoup éliminé, hein, beaucoup refoulé. Et donc l'ombre, elle est très importante. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Ou bien alors on décide de faire comme si rien n'était, hein, de, comme je disais en commençant, de balayer la poussière sous le tapis. Et donc on va se crisper sur ce que Jung appelle la persona ou le masque social. Hein, et donc on va avoir une vie d'emprunt, hein, une vie qui n'est pas naturelle, qui ne nous correspond pas. Alors, en société, on peut encore faire illusion, mais pour savoir comment est quelqu'un véritablement, il faut non pas voir son rôle social, mais interroger ses proches, ses enfants, sa femme, etc. Donc, les proches s'aperçoivent qu'une fois le masque tombé, la persona jungienne tombée, eh bien, la personne peut être déprimée, hein, ne plus avoir goût à rien. Vous savez, Guylaine, les hommes, c'est comme... Il y a des étoiles dont la lumière continue de nous parvenir et qui sont mortes depuis longtemps, vous voyez ? Eh bien, je pense qu'à la mi-vie, si on continue à ignorer l'ombre, on va justement avoir une personnalité d'emprunt, on sera des morts vivants, hein, comme ces fameuses étoiles. Alors, la sagesse sera de regarder l'ombre les yeux grands ouverts et de lui dire « qu'est-ce que tu me veux ?» Bien entendu, il ne faut pas se livrer pieds et poings liés à l'ombre, parce qu'il ne faut pas être, comme on dit, la proie pour l'ombre. Hein. Bon, il ne faut pas se livrer comme cela, mais il faut transiger avec elle, discuter, gérer. Qu'est-ce que tu me veux ? Je peux te donner ça, mais pas ça, etc.
La regarder en face.
La regarder en face, c'est ça. Avoir les yeux ouverts.
Avoir les yeux ouverts. Nous allons avoir les oreilles ouvertes pour cette pause musicale qui nous arrive maintenant.
Meu choro não é nada além de carnaval, é lágrima de samba na ponta dos pés. A multidão avança como um vendaval, me joga na avenida que não sei qual é. Pirata e super-homem cantam o calor, um peixe amarelo beija minha mão. As asas de um anjo soltas pelo chão, na chuva de confessos deixo a minha dor. Na avenida deixei lá a pele preta e a minha voz. Na avenida deixei lá a minha fala, a minha opinião, a minha casa, a minha solidão. Joguei do alto do terceiro andar, quebrei a cara e me livrei do resto dessa vida. Na avenida do carnaval, é lágrima de samba na ponta dos pés. A multidão avança como um vendaval, me joga na avenida que não sei qual é. Pirata e super-homem cantam o calor, um peixe amarelo beija minha mão. As asas de um anjo soltas pelo chão, na chuva de confetes deixo a minha dor. Na avenida deixei lá a pele preta e a minha voz. A minha fala, a minha opinião, a minha casa, a minha solidão. Joguei do alto do terceiro andar, quebrei a cara e me livrei do resto dessa vida. quero cantar, eu quero cantar, eu vou cantar até o fim, la 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 la, eu vou cantar, eu vou cantar, me deixem cantar até o fim, me deixem cantar até o fim, me deixem cantar, me deixem cantar até o fim.
Auditeurs, auditrices, toujours sur FM+, en compagnie de Michel Théron, auteur de son dernier livre « Sur les chemins de la sagesse ». Plusieurs voies ouvertes, plusieurs chemins pour accéder à mieux vivre, à mieux être. Nous avons déployé ensemble plusieurs thèmes que vous avez choisis. L'ombre, celui qui vient de terminer la première partie. Et j'ai remarqué que dans les quelques mots qui ouvrent ces chapitres-là, sont suivis d'un point d'interrogation. Alors, pourquoi ces points d'interrogation à certains mots, pourquoi pas à d'autres, et voilà quoi.
Un grand livre est celui qui sème à foison des points d'interrogation. Je crois que c'est André Gide qui disait ça. Hein. Il vaut mieux s'interroger, hein, plutôt qu'affirmer de façon péremptoire.
Mais dans les autres mots non plus, vous n'affirmiez pas, vous étiez...
Oui, mais
vous affirmiez plus que sur ceux sur lesquels vous avez mis les points d'interrogation.
Précise, Guylaine.
Voyons de façon précise, en effet. Alors, voulez-vous que je vous donne les mots qui sont suivis de points d'interrogation?
Oui,
par exemple, agir, point d'interrogation.
Ah,
non-agir,
voilà.
Point d'interrogation.
Bien sûr.
Ou encore espérance, point d'interrogation.
Oui,
désir,
bien.
Bonheur.
Ce sont des titres de chapitres.
Hein, les titres de chapitres, bien sûr.
Où je problématise ces notions. Agir, par exemple, toute notre culture qui est activiste, interventionniste, nous pousse à agir. Et je mets un point d'interrogation en questionnant justement le mot agir. Est-ce qu'il est opportun toujours d'agir? Vous voyez, hein, lorsque par exemple vous faites de la voile, hein, et que se lève un grand vent, actuellement nous avons le Mistral dans la région de Montpellier, hein, et bien à ce moment-là vous pouvez paniquer et vous allez vous crisper sur les écoutes du bateau. C'est le meilleur moyen de dessaler, hein, de boire la tasse. Bon, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut tout lâcher. Pas gros temps, tout lâcher. Donc, ne pas agir, justement. Alors, le bateau, il va flotter comme un bouchon, hein, et vous ne risquez absolument rien, vous voyez. Donc, je développe ce qu'en Orient, avec un mot chinois, on appelle le wuwei, c'est-à-dire le non-agir, ou plutôt l'agir sans agir, en quelque sorte. Agir avec une grande distance, vous voyez. C'est contre le prométhéisme occidental, contre cet activisme qui nous fabrique, hein, qui nous modèle, que je défend le non-agir. Je prends aussi l'exemple, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, de la fable Le Chêne et le Roseau. Hein. Bon, ben, le chêne résiste, il agit pour lutter contre le vent, mais il est déraciné, alors que le roseau, au contraire, il plie, mais il ne rompt pas. Donc, il y a dans la vie des moments où il faut savoir lâcher prise, voilà, tout laisser aller, vous voyez. Hein. Regardez, par exemple, imaginez, hein, une fourmi qui escalade un brin d'herbe. Bon, eh bien, la fourmi, maladroitement, elle manque de tomber, elle se rattrape, etc. C'est pas agréable, mais regardez le brin d'herbe, lui, il va ployer de façon belle, comment dire, agréable à regarder, hein, et il vaut mieux être brin d'herbe que d'être fourmi, dans ce cas-là, vous voyez.
Alors, il y a une autre expression qui a un point d'interrogation et qui nous sert d'épilogue au livre, qui est « La vie a-t-elle un sens ?»
Ah,
moi,
voilà.
Je me suis demandé si vous n'auriez peut-être pas dû mettre « La vie a-t-elle plusieurs sens ?» avec tout ce que vous venez de déployer avant cette
Alors,
phrase.
J'ai tenu à mettre ce chapitre, un épilogue. Il me tient beaucoup à cœur pour bien me démarquer d'avec les croyants traditionnels et avec tous les dispositifs qui finalisent la vie. Voilà. Hein. Bon, il y a un but, un sens. Alors là, je sais bien que je vais me mettre à dos beaucoup de conscience, hein, parce qu'on leur a appris depuis l'origine que la vie est finalisée. Au premier chef, ce sont les religions. Hein. Par exemple, dans le christianisme, on nous dit qui pour nous les hommes et pour notre salut descendit des cieux, hein, c'est dans le credo, hein, vous voyez. Donc il y a un sauveur, etc. Alors moi je suis agnostique et je distingue bien par parenthèse la religion traditionnelle dont je viens de parler de la spiritualité, de la recherche spirituelle qui est tout autre, hein, et il peut y avoir une spiritualité athée, hein, c'est ce que je défends profondément.
Vous avez écrit un livre sur ce sujet ou pas encore? Une spiritualité athée,
c'est une spiritualité qui nie justement la transcendance, hein, dans la source intérieure, par exemple, qui est préfacée par André Gounel, et qui est parue chez Goliath, je crois, dans sa troisième édition. Je défends cette idée d'une spiritualité athée. Alors, la vie a-t-elle un sens? Sens, ça veut dire à la fois signification et direction, hein. Bon, sens interdit, c'est direction, et quel est le sens de ce texte, ses significations. Je pense qu'elle a des formes, voilà. Et là, je me sens plus oriental qu'occidental. Elle a des formes, elle est métamorphose, c'est-à-dire au sens grec, changement de forme, et nous passons justement d'une case blanche à une case noire, comme sur un échiquier, etc. Vous voyez, bon, donc, est-ce que trouver là-dedans un sens, hein, c'est difficile, vous savez. Hein, c'est un mélange, c'est un mixte, hein, c'est un peu comme une TSF, où vous avez de temps en temps du Mozart ou du Bach, moment sublime, et puis à côté, les parasites qui vont violer la belle musique, ou bien alors le spot publicitaire, vous voyez. Hein. Donc, dans la vie, on ne peut pas zapper. Hein. Bon, il faut tout prendre, hein, prendre ce qui en vaut la peine, et rire du reste, je termine aussi sur l'humour. Hein. Donc, cette idée du sens, elle rassure. Bien entendu, je ne veux choquer personne, j'admets tout à fait qu'elle donne courage pour vivre à certaines personnes. C'est un peu comme le chapitre Espérance que j'ai terminé, où j'ai terminé Espérance par point d'interrogation. Hein. Oui. Bon, l'espérance peut effectivement nous faire vivre, mais elle peut aussi nous empêcher de vivre, nous empêcher le hic et nunc, empêcher le ici et maintenant, de goûter l'instant présent. Alors vous avez raison, Guylaine, je sais pas, vous n'avez pas été choquée par la vie à tel instant, par ce chapitre, par ce chapitre final.
Non, pas du tout.
J'espère, parce que je serais mortifié si cela vous avait choqué.
Non.
Mais...
Alors j'avais peut-être la dernière question, je ne sais pas, sûrement. Je me suis demandé comment est-ce que vous aviez fait pour choisir ces 20 entrées comment avez-vous fait pour laisser toutes les autres et ne garder que celles-ci? Pour ces voies de la sagesse, les chemins de la sagesse.
Oui,
ça devient compliqué d'en laisser dans l'ombre et d'autres dans la lumière.
Bon, si j'ai oublié effectivement... J'ai dit tout ce qui me venait à l'esprit, c'est comme un testament en quelque sorte, ce petit livre, oui. Donc, j'ai revisité plein de thèmes que j'ai traités dans mes livres antérieurs, et je ne vois pas du tout une autre option, sauf une option croyante, fidéiste, qui justement, à propos de la sagesse, parlerait de la sagesse de Dieu dont il est question dans la Bible, hein, ou bien qui citerait saint Paul, notre folie qui est sagesse, voilà la folie chrétienne qui est une sagesse supérieure, et Paul critique la sagesse ordinaire et la connaissance, la gnose, la gnosis dans la première épître aux Corinthiens. Donc je ne suis pas du tout paulinien, donc mon livre n'est pas du tout consensuel, bien entendu, c'est une option. Mais je dis bien que je respecte ceux qui ont d'autres options. Hein. Simplement, je ne les partage pas. J'ai toujours été un électron libre, vous voyez, Guylaine. Hein. Voilà, donc un libre penseur. Et je me trouve très bien justement dans le milieu des protestants libéraux parce qu'ils m'ont accueilli avec beaucoup de sympathie du fait de cette ouverture que j'ai manifestée, alors que l'Église catholique, d'où je viens, hein, m'avait tourné le dos lorsque j'ai écrit mon livre sur le credo, vous voyez. Donc, maintenant tout cela s'apaise, soyons en paix, hein, voilà, je crois que la paix, hein, shalom, salam, que l'on la dise en hébreu ou en arabe, hein, bon, c'est le plus important, hein, c'est le plus important. Et après tout, bon, je crois que l'évangile de Jean dit qu'il y a beaucoup de demeures dans la maison du Père, hein. Bon, alors je dis seulement, faisons qu'il n'y ait pas trop de demeurés, beaucoup de demeurés, mais bon, je voudrais quand même laisser l'idée d'un scepticisme souriant ou d'une ignorance savante. Et en matière religieuse, il n'y a qu'une seule position que je trouve belle, c'est l'apophatisme, hein, la théologie négative. Hein, on ne sait pas, ou que sais-je, comme disait Montaigne.
En tout cas, pour en savoir un peu plus quand même, nous vous invitons à lire « Sur les chemins de la sagesse » de Michel Théron, son dernier ouvrage qui vient d'être publié aux éditions Books on Demand, disponible sur Internet. Merci Michel Théron et à très bientôt sur les ondes FM+.
Merci beaucoup, au revoir à tous.
Au revoir.